moi, quand j'ai essayé d'interviewer des élèves qui étaient en ITEP, donc eux, ils étaient gratinés, hein, parce qu'ils étaient tous passés par la MDPH, etc., tous déscolarisés, il y en avait qui avaient mis le feu à leur école, mais attention, hein, pas au sens figuré, hein. Voilà, c'était quand même, entre guillemets, des cas. Et, j'avais envie de mieux connaître leurs besoins d'apprentissage, mais vécus pas. Enfin, pas seulement ceux que j'observais, ceux qui pouvaient manifester eux. Donc, ils étaient une quinzaine, j'ai tous interviewé, c'était 16 exactement. J'ai tous interviewé, et dans l'ITEP en question, il y avait un parc. Très souvent, vous savez, c'est un institut spécialisé, c'est d'anciennes résidences, châteaux, etc. Donc, il y a des parcs, très souvent. Et donc là, il y avait la cour de l'école, il y avait un parc, et dans le parc, il y avait un banc. Et ça me paraissait important, en tant qu'intervieweur, de faire en sorte que l'enfant s'approprie son entretien, vous voyez, soit un peu maître de l'entretien. Donc, comme ils étaient assez petits, entre 10 et 12 ans, déjà au départ, je leur montrais comment fonctionnait l'enregistreur, ils s'écoutaient parler, et puis après, on réécoutait l'enregistrement, voilà. Je leur disais, si tu veux, c'est toi qui lances l'enregistrement, ok, donc ils avaient le truc en main. Et puis, je leur disais toujours, est-ce que tu préfères qu'on s'assoie sur le banc ou qu'on marche dans le parc? Vous voyez, que la première intention vienne d'eux. Ils s'emparent encore une fois de leur interview. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que pour les élèves qui ont voulu s'asseoir, l'entretien n'a jamais pu durer plus de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, ils se levaient et s'échappaient, et des fois moins. Et en plus, un élève plutôt dans la retenue. Alors que quand les élèves marchaient avec moi, je suis toujours arrivée au bout de l'entretien, donc c'était toujours entre... C'était dans la récréation, hein, donc en gros 15-20 minutes. Je suis toujours arrivée au bout de l'entretien. Et en fait, ça m'a donné ces indications. Dès que je posais une question qui gênait l'enfant, il accélérait le pas. Et donc moi, je pouvais savoir ce qui pouvait lui poser problème en termes de prise de conscience ou en termes de contenu de questionnement. Et donc j'ai posé les questions suivantes. D'abord, je commence par quelque chose qu'il aime. Donc je disais, alors, qu'est-ce que tu aimes bien quand tu es en classe? Qu'est-ce que tu aimes bien quand tu es en classe? Donc l'élève commence à dire ce qu'il aime bien. Et là, je vois s'il me parle plutôt de la relation avec l'enseignant, s'il me parle plutôt de ses copains ou de l'apprentissage. Je vois ce qui est important pour lui au niveau de la classe. Ensuite, je lui dis, et qu'est-ce que tu aimes moins? Je ne dis pas qu'est-ce que tu n'aimes pas, je dis qu'est-ce que tu aimes moins. Parce que je ne veux pas non plus qu'il soit dans un rejet total dans son discours. Et qu'est-ce que tu aimes moins? Donc là, il me répond. Et une fois que j'ai ces deux premières questions, qui généralement, pour lesquelles j'ai toujours obtenu des réponses assez rapidement, assez facilement, là, je passe un truc plus introspectif. Et là, je lui demande, qu'est-ce qui pourrait t'aider quand tu te mets en colère en classe? Et je dis bien en classe. Parce que si je ne dis pas qu'est-ce qui pourrait t'aider quand tu es en colère, là, je rentre dans un domaine psy qui n'est pas le mien, vous voyez? Si je dis qu'est-ce qui pourrait t'aider quand tu es en colère, je prends le risque qu'ils me disent, maman, machin, que un tel revienne à la maison, vous voyez? Qu'est-ce qui pourrait t'aider quand tu commences à être en colère en classe? Je suis dans le cadre pédagogique, donc c'est une question qui devient légitime pour un pédagogue, quoi, vous voyez. On n'est pas dans la psychologie sauvage, on va dire, pendant l'entretien. Donc, qu'est-ce qui peut aider quand tu te mets en colère? Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que les 16 élèves m'ont apporté des réponses que personne n'avait vues, les enseignants et moi-même. C'est-à-dire que des fois, on tourne autour des besoins d'un élève, on fait des réunions d'équipe, on s'interroge en équipe, on fait venir un médiateur, on fait venir un référent de je sais quoi, vous voyez, je ne dis pas que c'est inutile, attention, mais des fois, on passe beaucoup de temps, on dépense beaucoup d'énergie, et la réponse, c'est l'élève qui l'a. Alors, je vais donner des exemples. Il y en a un, ce qui l'énervait, c'était qu'on lui propose des activités bébé, parce qu'il avait 12 ans, il avait un bon niveau scolaire. Et une fois, il a vu arriver un support, il a marqué CE1, un truc comme ça, parce qu'il était lecteur précaire. Et depuis, il faisait un blocage. Donc lui, ce qu'il n'aimait pas, c'est l'activité bébé. Donc une fois qu'il a dit ça, à chaque fois qu'on faisait des géométries, je lui montrais le livre de 6e, le type d'exercice qu'on faisait. Vous voyez, une fois, on faisait un parcours, on avait fait un parcours au tableau, c'était la géométrie analytique, donc c'était un quadrillage au tableau, et je lui ai montré un livre de 6e, le même type de quadrillage. Tu vois, c'est ta classe d'âge. Et donc lui, ça ne permet pas toute la séance, mais déjà il était disponible, quoi. Un autre, c'était plus compliqué, parce que cet élève-là avait tendance, quand il faisait une crise, à s'enfuir de la classe. Et le problème, c'est que cet institut était près des rails de RER. Et il allait se réfugier à un arbre qui était à 2 mètres des rails. Donc vous imaginez le stress de l'enseignante, et vous imaginez bien qu'elle laissait tout tomber, séance tenante, pour aller le récupérer, quoi. Ok, avec un RER qui devait passer tous les quarts d'heure. Ok, bon. Voire plus que des heures de pointe. Et donc, en fait, je lui pose des questions. Je lui dis, qu'est-ce qui pourrait te calmer quand tu commences à t'énerver en classe? Il me dit, moi, quand je suis énervée, je ne veux pas que la maîtresse me regarde. Et plus elle me regardera, plus je vais courir loin. Et pourquoi il y a cet arbre-là? Nous, vous savez quoi, on a interprété, peut-être qu'il va vers les rails du RER parce qu'il veut aller se jeter sous le train ou quoi. Non, c'est parce que là, on ne pouvait pas le voir. Donc, il s'en fichait des rails, lui. Donc, du coup, une fois qu'il m'a dit ça et que moi, j'ai renseigné l'enseignante à ce sujet, eh bien, elle a trouvé un contrat avec lui qui était que quand il s'échappe, il aimait bien les secrétaires de l'établissement. Qu'il aille voir les secrétaires. Et donc, elle passait un coup de fil dès qu'il sortait, et le secrétaire lui répondait tout de suite, quoi. Et donc, on savait où il était, mais elle ne le regardait plus. Vous voyez? Alors après, quelles formes ça peut prendre? Des formes diverses et variées, parce que les élèves sont diverses et variées. Mais en tout cas, ces élèves-là, qui avaient entre 10 et 12 ans, là, j'ai pris deux exemples, hein, mais ils m'ont tous informé d'une chose qu'on n'avait pas vue. Donc, je crois que ce type de questions... Qu'est-ce qui pourrait te calmer quand tu as envie de t'agiter? Qu'est-ce qui pourrait te calmer, etc. Ils ne vont pas tout nous fournir, hein, mais ils peuvent nous fournir des clés quand même. Mais si vous voulez arriver à ce type d'échange, je vous conseille de le faire en marchant dans la cour de récréation, par exemple pendant la récréation. Mais évitez de vous asseoir. Évitez de le faire en classe, qui n'est pas très symbolique quand même, en termes d'autorité. Alors, pour une petite anecdote, hein, j'ai mené... Oui, on va faire la pause. Et on fera la pause juste après l'anecdote. J'ai mené le même type de dispositif avec des élèves handicapés moteurs. Et là, c'était différent, c'était pas le même espace. Il y avait une cour hein, circulaire. Et donc, ils avaient le choix entre qu'on reste l'un à côté de l'autre, quoi. Eux dans leur fauteuil et puis moi assise quelque part. Ou qu'on fasse le tour de la cour. Et donc là, j'ai fait un petit peu, je voulais voir un peu si c'était différent ou pas. Donc, j'ai proposé de la même façon comme j'avais fait avec les élèves sur le comportement. Ils avaient le choix. Et j'ai obtenu les mêmes résultats. C'est-à-dire que les élèves qui sont au bout de l'entretien sont ceux qui ont voulu avancer. Et je me souviens d'une petite Margot, 8 ans, à qui je posais des questions. Là, c'était plus tout sur les comportements, c'était des questions sur le passage à l'écrit, parce que ces élèves-là, handicapés moteurs, avaient pratiquement tous des difficultés à passer à l'écrit. Et vous savoir comment ils le vivaient, comment on pouvait les aider. Et alors elle, la pauvre, quand je commençais à poser des questions, qu'est-ce que tu aimes en classe, qu'est-ce que tu aimes moins, tout ça, ça allait bien. Elle avançait avec son fauteuil tout doucement. Et au moment où je lui ai dit, alors, qu'est-ce qui pourrait t'aider quand tu as besoin d'écrire, quand il faut que tu écrives, etc., etc. Et là, la pauvre, elle a commencé à accélérer, elle avait un fauteuil manuel, hein, c'est pas un fauteuil électrique, elle a commencé à accélérer, ce qui fait qu'elle a fait un entretien en nage. Elle était épuisée de chercher à échapper à mes questions, vous voyez. Et du coup, moi, pour que l'entretien soit quand même assez formateur pour elle, je lui disais, Margot, là, je t'entends plus, tu es trop loin. Essaye de ralentir pour que l'on ressorte, parce qu'on vient à t'entendre. Et quand elle ralentissait, je me disais, bon, ça va. Elle ralentit, donc elle commence à croire dans l'introspection par rapport au français, par rapport au français écrit. Mais plus l'élève, pour moi, plus l'élève s'échappait physiquement, et moins elle était capable de réfléchir finalement à lui en tant qu'apprenant. Et finalement, un élève commence à être capable de ralentir pendant qu'il vous parle de lui en tant qu'apprenant, c'est un élève qui commence à conscientiser des choses et qui n'est plus dans le court-circuit dont on parlait. Donc l'entretien peut même être un moment d'apprentissage. Si on veille à les faire ralentir, on observe s'ils sont capables de ralentir progressivement par rapport aux questions introspectives. Voilà, donc on va faire une pause. Ah oui, effectivement, je suis désolée, j'ai parlé. Donc on va faire une pause et puis après, je dirai. Voilà, à tout à l'heure.
Merci.